RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, des dirigeants du monde entier sont réunis en ce moment à Marrakech, au Maroc, pour la COP22, la conférence climat, pour concrétiser les engagements pris à Paris l'an dernier à la COP21. Comment lier grandes ambitions, décisions politiques et le lobby des industries? Nous partons au Sénégal. Quel est l'héritage là-bas de la COP21? C'est un grand reportage de Guillaume Thibault.
Wow, président Macky Sall, excellent. Bravo.
Le 22 octobre dernier, en appuyant sur un simple bouton, Macky Sall fait entrer le Sénégal dans le cercle fermé des producteurs d'énergie solaire.
Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, excellent.
Bokol nous donne aujourd'hui une grande leçon à méditer. Cette leçon est une leçon de travail bien fait et dans les délais. Une leçon qui signifie qu'à force de volonté et de détermination, nous pouvons réaliser toutes les ambitions du Sénégal émergent.
L'inauguration de cette centrale solaire, la première donc du Sénégal, s'est transformée en immense fête pour les villages de la zone, surtout pour ceux qui ne sont pas encore connectés au réseau électrique. Pour les collectifs de femmes de Borol, avant de parler d'environnement, la priorité, c'est le développement.
La centrale solaire, ça va nous aider avec l'électricité. On a les frigos. On travaille bien sûr, ça va changer la vie, effectivement.
Ça amène de l'éclairage, on peut créer des emplois, il y aura de l'économie, beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Le solaire est bon, tu ne payes pas de l'argent, c'est gratuit pour nous.
Où je regarde? Là.
Bon, pour la gratuité, il faudra repasser. D'accord. Cette centrale de Borol, 25 millions d'euros d'investissement, 20 mégawatts crête de puissance, représente la consommation quotidienne de 160 000 foyers sénégalais. Les experts, spécialistes et politiques parlent d'une économie de 24 000 tonnes de CO2 par an, si le pays avait utilisé ces très polluantes centrales à charbon. Et signe que les choses peuvent évoluer très vite. Les 20 km de panneaux solaires ont été installés en 8 mois. Charlotte Aubin, présidente de Greenwich, la société d'investissement à l'origine de cette centrale.
On a réussi à développer cette centrale en 12 mois et la construire en 8 mois. À l'échelle des besoins du continent africain, avoir la capacité de développer des unités de 20 MW réplicables dans des zones isolées, là où il y a une disponibilité du foncier qui est très peu exploitable en agriculture ou en habitation, représente une solution très intéressante pour l'électrification.
Macky Sall n'a donc pas attendu la COP21 à Paris pour développer le solaire. Cette centrale de Borol, c'est le premier pas vers un objectif très clair, produire 20% d'électricité propre d'ici fin 2017. 6 autres centrales solaires sont en cours de construction. Puissance totale, 140 MW. Un champ éolien de 150 MW est aussi en chantier. Mais aujourd'hui, ce qui bloque, ce sont les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale et leurs protocoles complexes. À Borol, le président sénégalais a clairement appelé à une simplification des règles.
Le seul message que je voudrais lancer à nos partenaires européens et internationaux qui œuvrent pour l'électrification de l'Afrique, c'est de pouvoir donner les subventions aux projets existants, surtout en partenariat public-privé. Parce que là, ça a été conçu très rapidement. Au lieu de nous perdre dans les méandres de l'administration, de la bureaucratie, on peut appuyer des projets en cours de façon à baisser les coûts sur le réseau du Sénégal.
Du côté des bailleurs, justement, ce qui a changé ces dernières années, c'est l'obligation de ne valider, de n'accepter que des projets verts qui n'ont donc pas d'impact sur le climat. C'est par exemple la politique de l'AFD, l'Agence française de développement, dirigée au Sénégal par Laurence Hart.
On va voir l'impact de ce projet. Si ce projet a des impacts qui sont importants en matière d'environnement et de climat, je veux dire au sens négatif, bien entendu, c'est un projet qu'on ne va pas retenir. Alors pour faire cette analyse, on dispose d'instruments. On a par exemple un petit outil qui nous permet de mesurer l'impact en termes de CO2 du projet. Donc au-delà d'un certain impact, c'est le projet qu'on ne va pas retenir. Bon, en deux mots, au Sénégal, dans le secteur de l'énergie, on nous proposerait de financer une centrale thermique. On dirait ben non. Aujourd'hui, au Sénégal, ce qu'on regarde pour le développement du secteur de l'énergie, on regarde les projets d'énergie renouvelable. Voilà, on est dans l'amélioration du mix énergétique qui sont liés évidemment à tous les engagements que l'AFD a pris en termes d'impact climat de ces projets.
et à tous ceux qui estiment que ces projets de centrales solaires sont petits, peu ambitieux. Voilà au contraire ce que répond la PDG de Greenwich, Charlotte Aubin.
Greenwich a pour ambition de développer un portefeuille de 600 MW, ce qui représente un investissement $1 milliard. Nous avons d'autres projets au Sénégal. Nous espérons vivement étendre cette centrale, développer d'autres centrales, mais aussi pour des industriels qui sont dépendants de centrales diesel, chères et moins fiables que de l'électricité solaire.
Se pose néanmoins une question, ce développement est-il compatible avec les ambitions environnementales? Actuellement, 55% des Sénégalais ont accès à l'électricité, moins de 30% en brousse. Améliorer l'accès au réseau est essentiel pour développer le Sénégal, mais ce développement aura forcément des conséquences néfastes. Reste que c'est aujourd'hui la priorité, comme le dit El Hadj Gueye, le maire de Borol, où se trouve cette première centrale.
Faire de sorte que chaque Sénégalais, partout où il se trouve, puisse disposer l'énergie dont il a besoin, c'est faire preuve d'esprit démocratique, œuvrer pour l'équité et la justice sociale.
Retour à Dakar, immersion dans son nuage de pollution. Voiture charbon, la capitale a beau être une presqu'île balayée par les vents océaniques, les taux de microparticules sont 7 fois supérieurs aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Pollution qui préoccupe Macky Sall. En janvier 2016, le chef de l'État a ainsi proposé un projet de réforme de la Constitution. Avec, au sein de l'article 4, une petite révolution, le chef de l'État veut constitutionnaliser le droit à un environnement sain.
Le projet de révision confère aux populations un droit intangible sur le patrimoine foncier et les ressources naturelles, ainsi que leur droit à un environnement sain. Le Sénégal n'est pas et ne saurait être pour les uns à l'exclusion des autres. C'est un patrimoine commun et chaque génération doit le transférer aux futures générations dans les meilleures conditions.
Le 20 mars, les Sénégalais, lors d'un référendum, votent oui à cette réforme constitutionnelle. L'article sur le droit à un environnement sain est affiné. La défense, la préservation et l'amélioration de l'environnement incombent au pouvoir public. Pouvoir public qui assure la protection des populations dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets. À Barni, dans la grande banlieue de Dakar, les habitants ont voté oui à ce référendum. Cette commune située en bord de mer pourrait être un petit paradis, mais elle est au cœur d'un triptyque infernal.
Barni est une ville menacée de tous côtés. À l'est par la centrale à charbon, à l'ouest par la Sokosim, au sud par la mer qui nous envahissent.
Des arguments qui permettent de comprendre pourquoi la ville a voté oui au projet de réforme constitutionnelle de Macky Sall. Oui à un environnement sain, celui qui s'est engouffré dans cette brèche, c'est le maire Abou Ahmed Seck.
Bien évidemment, quand le projet a été adopté, nous nous sommes lancés dans ce créneau pour essayer d'étudier les modalités pour voir comment utiliser concrètement cette disposition. Nous nous sommes rapprochés de contacts ou de conseils ou d'avocats français pour voir un petit peu comment ça a été utilisé. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a, en tout cas pour le cas français, le temps qu'on éclaire un petit peu ici, il y a possibilité de saisir le juge judiciaire. Donc nous sommes en train de suivre de manière très très précise cette question-là.
Fatou Samba reçoit dans sa petite concession. De chez elle, on voit les cheminées de la société de chaux et du ciment. La Sokosim, groupe français, créé en 1948, premier producteur de ciment dans la sous-région. Et la vie avec cette usine n'est pas facile.
Du désarroi, parce qu'on est toujours menacé par la poussière, peut-être les gaz. Ils ont dit qu'ils avaient, par exemple, des mécanismes pour pouvoir capter la poussière, mais ça ne sert à rien. La nuit, ils laissent la poussière envahir toute la ville.
Cher Fadel Ouad représente les populations affectées de Barni. Il estime que les rejets de l'usine ont un impact direct sur la santé.
À Barni, les premières causes de maladies, ce sont des maladies pulmonaires, telles que la tuberculose, parce que lié à la poussière, mais aussi les asthmes, et voilà, tout ce qui est lié aux poumons. Parce que vous savez, la Sokosim a augmenté plus de 4 fois sa production depuis 1948 à nos jours.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui un dialogue entre vous, population, association,
et la Socosim?
Oui, non, il n'existe pas de dialogue parce que à la Socosim, quand on leur écrit, ils ne répondent même pas.
Je peux vous prendre une minute?
Comme c'est souvent le cas avec les grands groupes, leurs dirigeants très occupés sont difficiles à joindre. Début novembre, Jean-Marc Ayrault est venu en visite officielle à Dakar. Le ministre français des Affaires étrangères en a profité pour inaugurer la fondation Socosim, un lieu culturel, sportif pour les jeunes de Rufisque. L'occasion aussi de croiser Yougasso, le directeur général du premier cimentier d'Afrique de l'Ouest.
Je peux vous prendre une minute? Venez, on se met juste un petit peu devant.
La bonne cause.
On voit là un exemple de ce que la Socosim peut faire quand elle investit dans le social, etc. C'est un peu ça l'idée de ce centre?
L'idée de ce centre, effectivement, c'est de s'ouvrir et de donner à la jeunesse et au monde de la culture un endroit où ils peuvent s'exprimer et s'épanouir. Et donc notre politique sociale et sociétale s'exprime à travers ce centre et bien d'autres actions. Ce que vous venez de voir est un aspect de ce que nous faisons au Centre culturel Maurice Gueye de Rufisque.
Je voudrais vous parler un peu de la politique sénégalaise. Le président de la République souhaite constitutionnaliser le droit à un environnement sain. Quel est votre regard, vous, à la Socosim, sur ces problématiques-là? Vous êtes assez souvent pointé du doigt par les associations, par les collectivités locales, notamment de Barny, pour des rejets, etc., etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est une bonne chose, cette constitution?
Alors, cette constitutionnalisation ne peut être qu'une bonne chose parce que ça permet de donner une force publique avec le leadership de l'État. Mais nous, nous n'avons pas attendu. N'oublions pas que Socosim est une entreprise qui est certifiée ISO 14001. Et donc, nous considérons que sur le plan environnemental et sociétal, nous sommes très en avant par rapport, en tout cas, aux craintes que les gens peuvent avoir. Et nous tenons à rassurer tout le monde et à nous mettre en conformité avec l'ensemble des lois et règlements qui régissent un peu le secteur, aussi bien sur le plan national que sur le plan international.
Merci.
Si la Socosim affirme respecter toutes les normes environnementales, les lois, les règlements, la mairie de Barny, qui souhaite engager des discussions avec l'entreprise, a pourtant les plus grandes difficultés à le faire. Pour le maire, l'accord COP21 de Paris n'est pas respecté par les industriels.
Mais là où on a une faiblesse, c'est au niveau des industriels. Vous savez, lors de l'accord de Paris, il y a beaucoup, beaucoup qui a été fait. Il y a des banques même qui se sont engagées à ne pas financer tel projet de charbon dans tel pays, la BNP, la Société Générale, etc. Mais il n'y a pas, on ne sent pas encore la responsabilité des entreprises privées. On ne les sent pas, on ne les sent vraiment pas. La Socosim, par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur des bases, des autorisations qu'ils ont obtenues, etc. Si c'est du point administratif, nous, on ne pourra attaquer que donc la décision administrative ayant permis à la Socosim de faire ou de. Mais si c'est clairement devant le juge judiciaire, à partir de là, demain, une association, nous-mêmes, une collectivité peut saisir le juge judiciaire pour faire constater un certain nombre de manquements et nous souhaitons fortement que la nouvelle disposition qui a été votée s'inscrive dans ce deuxième créneau, ce qui permettrait aux citoyens sénégalais de pouvoir défendre leurs droits, porter plainte tout simplement devant les tribunaux.
Le maire de Barny attend l'officialisation qui tarde à venir et espère surtout, comme Fatou Samba, que le président Macky Sall tiendra ses promesses.
Mais ça nous intéresse, mais est-ce qu'il respecte ses paroles? Parce que s'il respectait ses paroles, par exemple, la population pourrait se lever un jour et exiger, par exemple, ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il respecte ses paroles?
Quel message vous adressez au président?
Au président qu'il est piqué de Barny.
De passage à Washington vendredi dernier pour rencontrer les cadres du Fonds monétaire international avant de s'en rendre à Marrakech pour participer à la COP22, le président Macky Sall a accordé une interview à RFI. Notre correspondante Anne-Marie Capomaccio lui a demandé « Si je suis citoyenne sénégalaise et que mon eau est empoisonnée, est-ce que je peux porter plainte ou même engager une class action comme ici aux USA ?»
Nous devons veiller à ce que notre environnement soit protégé, soit préservé. Vous savez, la Constitution évoque les principes. Maintenant, il faudra que la réflexion se poursuive pour voir est-ce que les lois et règlements suivent ou bien est-ce qu'à travers le principe constitutionnel, on peut arriver à intenter une action judiciaire. Ça, c'est une autre affaire. Je pense que nous avons une société civile très dynamique et très développée qui ne manquera pas d'apporter une contribution dans le sens de la préservation de l'environnement pour les citoyens. Donc oui, nous pourrons voir quelles seront les conséquences positives des principes énoncés dans la Constitution, mais les traduire également en termes de lois et de règlements pour que toute la chaîne soit alimentée.
À la sortie de Dakar, certains voient le monde autrement. Ils n'ont pas attendu des réformes de la Constitution, des accords comme celui de la COP21, pour aller de l'avant.
On est venu ici à 45 bornes de Dakar pour être aussi autonome parce que là, on n'a pas d'électricité. Donc, on a des panneaux solaires et des éoliennes. Je m'appelle Cheikh Tidiane Diallo, je suis le responsable du village PEP de La Cruz. Et par rapport à l'agriculture aussi, on fait de l'agriculture bio aussi. Donc, ça veut dire que tout ce que nous consommons ici comme légumes, on le produit nous-mêmes.
Sur 3 hectares, ils ont monté un village pilote. 100 jeunes de 5 à 25 ans, en grande partie venus de la rue, vivent ici et suivent en parallèle une formation pour apprendre un métier. Pour Grégoire, c'est l'agriculture.
Ici, on ne fait pas l'engrais, on ne fait que du bio. On ne fait pas de produits chimiques, tout ce qu'on récolte, c'est du bio. C'est important parce que le produit chimique, ça peut t'amener des problèmes, des maux de ventre, ça peut t'amener beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Ça abîme aussi le sol, ça garde le sol, tout ça. C'est pourquoi on est interdit de faire de produits chimiques.
Est-ce que tu savais ça avant de venir ici?
Je ne savais pas, c'est eux qui m'ont appris ça, tout ça. Ils m'ont donné beaucoup d'expérience au maraîcher. En tout cas, je les remercie beaucoup.
Agriculture bio, menuiserie, mais aussi construction de bâtiments en latérite, en banco, en produits naturels donc.
Et là, vous voyez, nous sommes dans le bâtiment, vous voyez, il y a une certaine fraîcheur dans la pièce. Moi, c'est Mamadou Mokhtar Sek, et je suis le responsable bureau d'études de village pilote. C'est l'effet de l'isolation thermique du matériau. Quand vous touchez le mur, vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment très frais. À l'extérieur, actuellement, avec l'effet chaleur, vous allez voir que ça va changer de température pour pouvoir réguler la température intérieure par rapport au corps humain. Nous avons aussi mis des bacs transparents, vous voyez, c'est encore dans le même phénomène d'économie d'énergie. Donc, on apporte de la lumière naturelle dans les ateliers pour qu'ils travaillent, afin de ne pas tout le temps mettre en marche l'électricité pour travailler dans ce cadre-là.
Un pari un peu fou, mais qui prouve au final que l'on peut vivre en respectant l'environnement. Rien n'est impossible, explique Cheikh Tidiane Diallo.
Au début, on savait que ça allait être dur, trop dur même, mais franchement, on y croyait. On y croyait, on s'est dit que voilà, on ne va pas attendre que les gens viennent nous amener de l'eau, l'électricité et tout. Donc, on va se débrouiller en attendant que tout ça là va venir, quoi.
Qu'est-ce que vous avez à dire justement avec cette expérience? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent aujourd'hui c'est pas possible? Ces jeunes notamment qui recherchent la modernité, qui recherchent le confort.
C'est possible. Il faut juste y croire. Il faut juste y croire et de mettre de la volonté. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous viennent dans des zones rurales, dans des villages lointains qui n'ont pas d'électricité et tout. Et là, tout ce que nous avons fait ici, ça les a donné des idées pour qu'eux, s'ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent faire comme nous. Utiliser le soleil, la terre et tout, et tout, et tout. C'est aussi pour leur montrer que, voilà, on peut avoir du gaz avec des bouches de vache. Tout est possible ici. Gorgorlou, yalla yalla baye sa tol. Il ne faut pas juste attendre pour dire, voilà, que Dieu nous donne. Il faut travailler et on dit aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Sénégal ñun ñongi woté ngir waxtané ak luñu sétlu.
Une philosophie partagée par les chanteuses du groupe Rafa, originaire de Saint-Louis.
Nous disons consommons local, l'autosuffisance et l'indépendance, l'union fait la force.
Arrêtons de dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien et mettons-nous à travailler. Travaillons pour réussir ensemble. Voilà.
Malgré leurs moyens réduits, les États africains comme le Sénégal s'engagent donc pour le climat. Se lancent par exemple dans le solaire, cherchent des solutions tout en pensant au développement et à l'amélioration essentielle des conditions de vie des populations. L'exemple de ce village pilote montre qu'il est possible de vivre en consommant moins, autant de réussites, autant de messages que devraient entendre avant tout les décideurs des pays occidentaux qui sont aujourd'hui les plus grands pollueurs de la planète. Sénégal, quel est l'héritage de la COP21? Grand reportage signé Souel Kélir et Guillaume Thibault.
Priorité santé.